L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Toulouse, en France, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS Airbus, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkova Institute of Science and Technology à Moscou. Avec lui, en sa qualité d'éminent spécialiste en construction aérospatiale, nous allons tenter de comprendre les raisons et les enjeux des allégations américaines accusant la Russie de vouloir utiliser des armes nucléaires dans l'espace. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Avant de commencer notre entretien avec Jean-François Geneste, nous rappelons à nos auditeurs que le vote aux élections présidentielles russes commence ce 15 mars et durera pour la première fois 3 jours jusqu'au 17 mars. Plus de 94 000 bureaux de vote ouvrent leurs portes dans tout le pays. Le nombre d'électeurs est de 112,3 millions de personnes en Russie et 1,9 million à l'étranger. Par ailleurs, nous rappelons que le vote anticipé a commencé le 25 février et s'est terminé le 14 mars. Pas moins de 2,3 millions de personnes y ont pris part. Dans 29 régions, la méthode de vote électronique a été adoptée. Plus de 4,5 millions de Russes ont fait ce choix. Il s'agit notamment de la première élection présidentielle à laquelle participent les habitants des nouvelles régions de Russie. Selon la Commission électorale centrale, les gens manifestent un grand désir de voter et sont prêts à se rendre dans les bureaux de vote en dépit de toutes les difficultés. Plus de 156 000 observateurs surveilleront les élections, y compris des étrangers en provenance de 106 pays. À ce titre, présent à Moscou, en sa qualité d'observateur international, le président de l'Assemblée nationale du Burundi, le très honorable monsieur Gélaz Daniel Ndabirab, s'est exprimé sur le déroulement des élections présidentielles ce premier jour de vendredi 15 mars au micro de Spoutnik Afrique. Écoutons-le.
Je suis effectivement très impressionné parce que les inquiétudes que j'avais avant d'arriver ici donc sont levées. Autrement dit, on me disait qu'il y avait la possibilité de voter électroniquement ou bien de voter par papier. Alors moi, je me disais, mais finalement, par où se faisait le choix? J'ai vu effectivement que après l'identification, facile, on fait le choix de soit de s'aligner dans la ligne électronique ou bien de prendre la voie du papier. Donc de papier de vote classique. Et quand je me suis fait expliquer ce qui se passe électroniquement, moi j'ai vu, je vous félicite, j'ai vu que vous avez réussi. Moi, j'avais une question, d'abord une question de temps, combien de temps ça prend, et donc que la personne enclenche le mécanisme donc d'identification. Moi j'ai vu que ça prend très peu de temps, et surtout que on me dit qu'on peut le faire donc soit chez soi, sur téléphone, ou bien qu'on peut se présenter au bureau de vote pour le faire donc électroniquement. Et là, j'ai assisté quelqu'un qui faisait son choix. J'ai vu que ça n'a pas pris 2 minutes. Moi, je dis que vous avez réaliser une grande économie de temps et d'énergie. Mais aussi, il y a la question que je me posais sur l'assurance, la sécurité. Et on m'a expliqué que jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune plainte en matière de sécurisation de son procédé électronique, ce qui est encore une fois une très grande réussite, puisque c'est ça qui fait peur. Moi, je dis félicitations, puisque il ne peut pas y avoir un moyen de piratage. C'est ça qui est, en fait, qui peut rendre donc le vote transparent, qui est le vote qui est accepté par tous, parce qu'il y a moyen, il n'y a pas moyen de réclamer. Il n'y a pas moyen donc de, je dirais, d'occulter hein, le processus. Ça, c'est une très bonne chose.
C'était le président de l'Assemblée nationale du Burundi, le très honorable monsieur Gélas Daniel Ndabirab. Il s'est exprimé sur le déroulement des élections présidentielles en Russie au micro de Spoutnik Afrique. Écoutons également la déclaration à Spoutnik Afrique de monsieur Serge Espoir Matamba, premier secrétaire du Parti du Peuple Uni pour la rénovation sociale au Cameroun, actuellement en visite à Moscou.
Bonjour Monsieur Matamba, merci d'être ici aujourd'hui à Moscou pour observer comment se passent les élections présidentielles en Russie. D'abord, pourquoi avez-vous décidé de venir ici ?
Vous savez, aujourd'hui, le monde se veut un monde non seulement multipolaire, mais nous avons l'obligation de savoir ce qui se passe sans toutefois attendre qu'on nous dise ce qui se passe. Et vous savez, il y a, n'est-ce pas, cette désinformation croissante qui, n'est-ce pas, est aujourd'hui utilisée comme levier de manipulation dans le monde. D'où moi, en tant qu'homme politique, je n'attends plus qu'on me dise ce qui se passe dans tel ou tel pays ou dans tel ou tel continent. Je me dois, par devoir, lorsque les possibilités se présentent, d'être présent, d'aller sur le terrain et de voir de mes yeux, d'entendre de mes oreilles ce qui se passe et de pouvoir parler, dire exactement ce qui se passe. Parce que, comme vous le savez, un homme politique, il est vrai, a droit, certes, à de la réserve dans ses propos, mais doit toujours dire ce qu'il est et doit toujours faire ce qu'il dit. D'où ma présence aujourd'hui à Moscou pour constater de mes propres yeux comment se déroule l'élection, comment les citoyens sont mobilisés, l'engouement qui est autour des élections, voir comment le processus même est enclenché et pouvoir donc le dire ou le relayer ou le partager avec plusieurs.
D'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup d'observateurs africains qui sont venus pour observer les élections présidentielles. Pensez-vous que c'est une tendance prometteuse parce que on a l'impression que l'Afrique s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe quand même et en Russie et autour de nos relations russo-africaines avec des pays africains?
C'est une très bonne chose, ce que nous voyons sur le terrain avec les observateurs africains venus de plusieurs pays. Je crois qu'on parle de plus de 50 pays africains représentés ici avec des observateurs. Vous savez, l'image que l'Afrique a souvent eue dans le passé de la Russie est en train de changer à une vitesse exponentielle. Les Africains sont en train de comprendre désormais que la Russie n'a pas été ce pays qui leur a été présenté. Et ils doivent constater de leurs propres yeux et voir de leurs propres yeux ce qui se passe en Russie. Et c'est très bien que ce soit ainsi, parce que si vous voulez, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le passé, la construction d'un monde multipolaire voudrait que chacun s'imprègne des réalités de l'autre. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les observateurs africains qui sont là, qui parcourent les bureaux de vote, les centres de vote un peu partout dans le pays, dans toute la République fédérale, je crois pour ma part que plusieurs entreront véritablement satisfaits de ce qu'ils ont vu et ce qui se passe.
C'était Serge Espoir Motamba, premier secrétaire du Parti du Peuple Uni pour la rénovation sociale au Cameroun, actuellement en visite à Moscou. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Mercredi 14 février, le président républicain de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Turner, a révélé une grave menace pour la sécurité nationale pour son pays. Selon lui, la Russie aurait développé une nouvelle arme nucléaire dans le but de détruire les satellites américains. Cette déclaration a été modérée par plusieurs spécialistes et hommes politiques des États-Unis. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a affirmé prendre le sujet au sérieux, bien que selon lui, le danger n'est pas immédiat et que les vies humaines ne sont pas à risque. En effet, si la Russie venait à passer à l'action, elle violerait un traité vieux d'un demi-siècle. Mais qu'en est-il de la stratégie US concernant la domination de l'espace? À ce titre, il y a lieu de rappeler que le 9 septembre 2022, sous le patronage de la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, le département d'État a lancé le premier cadre stratégique pour la diplomatie spatiale. Selon ce document, il s'agit de la mise en œuvre d'une stratégie de diplomatie spatiale qui devrait contribuer à l'avancement d'un ordre international fondé sur des règles, évidemment américaines, dans les activités spatiales et également renforcer la compréhension et le soutien aux politiques et programmes spatiaux américains. Le tout dans le but de protéger les entreprises américaines du spatial en leur assurant le monopole. Si l'on fait une brève rétrospective historique des trois dernières administrations américaines, Obama, Trump et Biden, la situation évolue constamment dans le sens d'une transformation des activités spatiales américaines en une réelle économie spatiale. En effet, Barack Obama, au tout début de son premier mandat, a publié la directive présidentielle politique spatiale nationale des États-Unis d'Amérique. Puis, il y a eu la plus célèbre loi sur l'espace commercial en 2015. Il promeut le leadership américain dans l'espace. La politique spatiale nationale de Trump de décembre 2020 parle davantage de ce leadership. Je cite, « Un secteur spatial commercial fort, innovant et compétitif est la source des progrès continus et des progrès des États-Unis et leadership durable dans l'espace. » C'est sous la présidence Trump qu'ont été adoptées un certain nombre de directives dans le domaine de la politique spatiale auquel fait référence le manuel de diplomatie spatiale. En décembre 2021, l'administration Biden a publié son cadre des priorités spatiales des États-Unis. Il se trouve que Donald Trump a dit presque tout ce qui était possible. Il l'a fait de manière assez structurée sur tous les fronts, de la commercialisation à la cybersécurité, en passant par l'utilisation des forces nucléaires dans l'espace. Apparemment, c'est la raison pour laquelle Biden a finalement clairement indiqué dans ses priorités que le nouveau cadre vise à donner au reste du monde une compréhension de qui possède l'espace. Le document indique que l'espace est avant tout une source de primauté et de force américaine et que les États-Unis sont le leader mondial dans l'espace. Ainsi, quels sont les dessous et les enjeux des accusations américaines à l'égard de la Russie? Des armes nucléaires dans l'espace, est-ce une possibilité plausible et efficiente pour toutes les grandes puissances? Quid de la militarisation de l'espace et des possibilités de coopération dans des projets bénéfiques pour tous? Pour traiter ce sujet fondamental qui concerne le futur de toute l'humanité, j'ai eu le plaisir de recevoir depuis Toulouse, en France, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS Airbus, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Jean-François Geneste, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, enchanté.
Tout le plaisir est pour nous. Bien, alors la première question, l'idée d'abattre des satellites avec des armes nucléaires est apparue et a été mise en œuvre pour la première fois dans un programme appelé Programme 437, le premier système anti-satellite de l'US Air Force. Et ce document, il a été déclassifié en 1991. Et puis, nous avons en mai 1963 le président Kennedy qui a ordonné au ministère de la Défense de développer un système d'armes anti-satellite qu'on appelle ASAT dès que possible. Et ce système a été déployé, exploité de 1964 à 1974 sur l'île de Johnston dans l'océan Pacifique et au sein de la base de missiles balistiques à moyenne portée Thor dotée de têtes nucléaires et d'un segment de suivi spatial. Alors, en partant de là, François Genest, que pensez-vous des accusations portées à l'égard de la Russie ? Sont-elles justifiées ? Et puis, des armes nucléaires dans l'espace, est-ce une bonne idée ?
Alors écoutez, d'abord je voudrais donner une précision sur l'état d'esprit américain. Oui. Après les attentats du 11 septembre 2001, moi je travaillais à l'époque dans le domaine spatial et j'ai un de mes collègues qui est venu me voir en février 2002, il avait été écrit un gros pavé donc en anglais par le gouvernement américain, qui expliquait ce qu'ils allaient faire. Et donc, dans ce gros pavé, suite aux attentats, encore une fois, il était spécifié le concept de space dominance, donc en 2002, février 2002.
Domination dans l'espace.
Voilà, et space dominance, ça voulait dire clairement interdire l'accès à l'espace à qui l'on veut.
D'accord.
Donc, je pense qu'il faut quand même dire les choses clairement, et elles se présentent comme ça. Mmh. Alors ensuite, je passe à votre question. En ce qui concerne les armes nucléaires dans l'espace, si vous voulez, enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est pas intéressant pour les grandes puissances qui ont des intérêts majeurs à se projeter. Alors, si je dis que les États-Unis se projettent dans le monde entier, je pense que ça, c'est défoncer une porte ouverte, comme on dit.
Oui, oui.
Mais la Russie se projette en Syrie. Mmh. Elle s'était projetée à une autre époque en Afghanistan, dans des conditions un peu différentes. Donc, elle a vocation, la Russie aussi, à se projeter dans son étranger proche. On le voit bien aujourd'hui, en Ukraine, par exemple, dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et la Chine, elle aussi, aura fort probablement, on verra ce qui se passera, mais enfin, en ce qui concerne Taïwan, les grandes puissances ont vocation quand même à se projeter un jour ou l'autre. Mmh. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on met des armes nucléaires dans l'espace et qu'on s'en sert, on va polluer les orbites et ça va mal se passer pour tout le monde et les grandes puissances perdront leur avantage par rapport, entre guillemets, aux petites puissances ou aux pas de puissances du tout. Donc ça serait assez suicidaire en fait de leur part.
C'est-à-dire les répercussions d'un acte pareil, notamment sur le plan économique et sécuritaire sur Terre, dépassent de très très loin l'avantage qu'on pourrait tirer d'une utilisation éventuelle d'armes nucléaires dans l'espace.
Ah oui, là c'est même pire que ça, c'est-à-dire que ça affaiblirait la grande puissance au profit de puissances qui ne sont pas spatiales, par exemple. Donc, c'est vraiment aucun intérêt, quoi. Vraiment aucun. Ou alors, à l'extrême, mais là, on est dans la guerre nucléaire totale, le fameux MAD, Mutual Assured Destruction. Tout le monde s'en fiche, mais enfin, bon, c'est un peu dommage pour l'humanité entière. Donc, on va écarter ça.
On va écarter cette éventualité. Je pense bien que la raison finira par triompher, comme on dit. Alors, la deuxième question, François Genest. Inspiré par l'utilisation de systèmes spatiaux dans les opérations de combat pendant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, donc le chef d'état-major des forces américaines, général Merrill McPeck, a qualifié l'opération donc Tempête du désert de première guerre spatiale américaine. Et puis, on retrouve ce concept ou cette inspiration en 2017, lorsque des experts ont recommandé à l'administration Trump d'envisager la possibilité de placer des systèmes spatiaux à des points clés comme des forts orbitaux. Ils doivent être, selon eux, capables d'utiliser des ondes électromagnétiques, des faisceaux d'énergie dirigés et des projectiles à masse cinétique qui peuvent refuser l'accès, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, à l'espace à d'autres puissances si elles tentent de détruire les États-Unis ou de nuire à leurs intérêts nationaux. Voilà, donc je crois que tout est dit. la messe est dite, comme on dit. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est cette histoire-là de forts orbitaux ? Et une telle militarisation ne pourrait-elle pas, in fine, transformer l'espace en un terrain de confrontation géopolitique violente ? Est-ce que ce n'est alors, pas ça que, vers ça qu'on va, malheureusement ?
Alors, pour ce qui concerne les forts orbitaux, bon, ça, c'est des aspects tactiques, je dirais, donc... Il y a des, enfin, quand on regarde les lignes de défense russes en Ukraine aujourd'hui, enfin, etc. Ça, c'est des aspects tactiques. Donc, je vais pas tellement le commenter parce que, on pourrait, comment dire, imaginer d'autres systèmes ou d'autres façons d'accord. de se défendre ou d'attaquer, enfin, bon, etc. Par contre, on voit bien la space dominance, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est très clair. Ensuite, compte tenu du système américain, alors je rappelle quand même que selon l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, il y a quelques mois, c'est un pays qui n'a vécu que 16 ans de paix sur 240 ans d'existence, hein, il faut quand même le dire. Donc c'est un pays guerrier. Les petits pays qui voudraient s'extraire de la tutelle US hein, ont une priorité absolue à se doter de capacités qui éviteraient à l'oncle Sam, on va l'appeler comme ça, de se projeter chez eux. Ça, c'est un point important. Donc effectivement, les petits pays qui voudraient s'abstraire sont incités, je dirais, par les événements, à se doter de systèmes qui, eux, pourraient éviter la projection américaine. Donc, en fait, leur priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que les États-Unis ne puissent pas se projeter chez eux, parce qu'eux, ils n'ont aucune chance de se projeter aux États-Unis, hein, faut quand même être clair. Et à ce moment-là, si vous voulez... eux pourraient être tentés de vouloir faire la guerre spatiale. Alors, on comprend bien quand, si les États-Unis ou les grandes puissances prévoient ça d'un autre côté, mais effectivement, il faut qu'ils se prémunissent des attaques spatiales qui ne manqueraient pas d'arriver. On peut penser à un certain nombre de pays hein, qui, en cas de conflit, alors moi je pense à si l'Iran est attaqué, si la Corée du Nord était attaquée, bon, je ne sais pas ce qu'ils feraient, hein, je ne connais pas leur plan, mais moi, si j'étais eux, je m'occuperais en premier lieu du segment spatial américain. C'est donc, la meilleure chance
parce
qu'ils ont.
Juste pour bien clarifier pourquoi, parce que tous les systèmes de navigation sont maintenant dirigés par satellite. En quelque sorte, c'est un peu entre 25 et 30 satellites du GPS. Donc, si on détruit, par exemple, ce système-là, on neutralise tout.
Oui, absolument, absolument. Donc, enfin, il y a ça, il y a pas mal d'autres choses parce qu'il y a pas que le GPS, il y a l'observation aujourd'hui.
Oui,
gens-là, les planifications militaires, ça se base sur les satellites d'observation. Enfin bon, il y a les télécoms aussi pour communiquer. Enfin bon, etc. Donc c'est un tout, c'est un système global très complexe d'ailleurs et très cher. Pour moi, si j'étais stratège militaire, ça serait ma cible privilégiée. Ensuite, ne nous leurrons pas, hein, par rapport à votre question, la militarisation de l'espace n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité qui a commencé avec la Space Force qui a été créée par Donald Trump, et la France a suivi, par exemple, avec son commandement de l'espace aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et alors, est-ce que cela finira par une confrontation violente, puisque c'est la question que vous m'avez posée aussi. Là, je suis assez partagé sur la question, parce que en effet, effectivement, l'accumulation d'armements dans l'espace, elle favorise le déclenchement des hostilités. Tout au moins, c'est plus facile. Mais si la guerre se passe d'abord là-haut, c'est le caractère violent hein, que je commente là. Elle va empêcher les grandes puissances de se projeter, soit par neutralisation mutuelle, soit par surprise de la part d'un petit État. Et donc la violence, elle sera dans l'espace là-haut, mais il y a personne. Donc c'est de la violence matérielle, si vous voulez. C'est pas de la violence où il y a des morts. Je pense que même ça empêcherait des morts, moi, à titre personnel.
Et est-ce qu'il n'y a pas risque justement d'un continuum entre ce qui se passe sur Terre avec toutes les guerres que nous voyons et ce qui pourrait advenir dans l'espace.
Mais aujourd'hui, imaginons que pour une raison ou une autre, la Russie aurait inhibé une partie de la puissance spatiale américaine au-dessus de l'Ukraine, si c'était possible, ce qui n'est pas. Hein. Mais aujourd'hui, le conflit ukrainien, il aurait duré deux ou trois mois et c'était terminé. Et il n'y avait pas de possibilité d'aide. Là, le voilà. Alors après, les Russes n'ont pas voulu rentrer dans des attaques contre le système et notamment Starlink militaire américain. Mais voilà, s'ils l'avaient fait, je pense que ça aurait quand même pu changer. Et avec moins de morts au final. Tant qu'on casse du matériel,
y a pas de
c'est bon programme. C'est, voilà, ça se consomme, ça fait marcher l'industrie, comme ça le lobby militaro-industriel est content, qu'il soit russe, qu'il soit américain ou autre, et il n'y a pas de mort. Quand on commence à tuer des hommes, c'est pas du tout pareil.
D'accord. Alors, poursuivons encore un peu. En 2019, le commandement spatial de l'US Air Force organise un séminaire sur l'avenir de l'espace d'ici 2060 et ses implications sur la stratégie des États-Unis. Puis, donc, on a un ensemble de conclusions des participants au séminaire. Et les plus importantes, il me semble, et qui sont citées dans le document que j'ai cité tout à l'heure, je cite, « Les États-Unis doivent reconnaître que d'ici 2060, l'espace deviendra le principal moteur de la puissance nationale, politique, économique et militaire pour les pays qui organisent et utilisent le mieux ce potentiel. » Et parmi les scénarios, selon les mêmes experts, ils considèrent que l'espace comme un domaine de guerre, ce qui, à leur avis, reflète une situation positive dans laquelle les États-Unis sont la première puissance militaire spatiale. Bon, ça, c'est les projections américaines, disons, dans la logique de leur politique que vous avez expliqué tout à l'heure, de projection partout dans le monde comme un empire, un hégémon. Disons, il y a une certaine continuité. Mais c'est que il y a un changement dans le monde. Et c'est, ma question vient à ça. Avec l'émergence de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, comme nouvelle puissance spatiale aux côtés des États-Unis et de la Russie, une atteinte aux satellites n'aurait-elle pas de graves conséquences économiques, justement? Et ces pays ont-ils vraiment intérêt à se lancer dans ce genre d'aventure? Est-ce qu'il n'y a pas lieu justement de dire que la situation a changé? On ne sent pas au début des premières années après la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a maintenant lieu de se poser autour d'une table et discuter sur comment on peut trouver un compromis avantageux pour tout le monde.
Alors, déjà, ce qui concerne alors la Chine, ça ne marchera pas l'Inde non plus, mais pour l'Iran, la Corée du Nord, hein, ces deux pays en particulier, et il y en aura d'autres qui viendront, les États-Unis, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les empêcher d'accéder à l'espace. Ça, il faut quand même le dire. Ça se passe sous forme de sanctions, ça se passe sous forme de, comment dire, de menaces à ceux qui commercent avec eux, enfin bon, etc., etc. Donc je pense que ceux-là, ils savent bien de quoi il s'agit. Ensuite, je voudrais revenir quand même sur ce que vous avez dit initialement, hein, puisque l'avenir 2060, mais il n'y a pas besoin d'attendre 2060 pour que l'espace représente une partie importante de l'économie. Alors peut-être pas la plus importante, mais enfin quand même. Moi, je pense que par exemple pour les États-Unis aujourd'hui, c'est le cas. Alors, non seulement ils ont des activités civiles qui sont extrêmement importantes et qui sont liées au spatial, j'y viendrai après, mais encore une fois, leur hégémonie, et ils vivent de leur hégémonie, hein, parce que quand on voit comment est organisé le système du dollar, s'ils arrivent à fournir du dollar à tout le monde, c'est parce qu'ils sont hégémons et qu'ils peuvent se projeter chez ceux qui sont récalcitrants. En fait, si on regarde les choses de manière assez abrupte, c'est quand même ça. Donc ces activités spatiales sont vitales pour eux et elles sont d'autant plus vitales qu'elles sont à caractère militaire dès le départ pour contenir les autres, pour jouer le rôle d'hégémon. Donc ça c'est déjà, donc c'est pas la peine d'attendre 2060, hein, on y est. Ensuite, pour les conséquences économiques qui arriveraient en cas de guerre, de conflit, elles seraient majeures, hein, parce que car le public ne s'en doute guère quand même, mais on a beaucoup de services. Alors, je viens de l'évoquer, mais je vais en donner deux ou trois exemples. Le premier, c'est le GPS. Le GPS avec le trafic maritime, la logistique, la gestion des ressources marines et terrestres. Si vous voulez, enfin tout ça, bon, c'est quand même hyper important. Alors la gestion des ressources marines et terrestres, ça fait partie aussi de l'observation de la Terre. Donc il n'y a pas que le GPS là-dedans. Un sujet qui n'est pas très très connu, mais je vais dire quand même, parce que pour moi c'est important, les plus anciens qui nous écouteraient là aujourd'hui se souviendront peut-être de la panne de courant qu'on avait eue en 1979 en France pendant 3 jours. Et en fait, pour des raisons alors techniques et assez compliquées, il faut que l'offre de courant électrique sur le réseau corresponde à la demande.
Oui, oui.
Et donc, on va accrocher et décrocher des centrales électriques sur le réseau en fonction des fluctuations. Cela dit, il faut que ça se fasse de manière synchronisée. Et si c'est pas synchronisé, eh bien, le réseau s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé en 1979. Donc, l'accrochage des centrales ou le décrochage des centrales sur les réseaux électriques aujourd'hui se font par satellite. Donc, d'accord. Si on avait plus de satellites pour faire ça...
C'est-à-dire qu'on peut mettre une bonne partie de l'humanité dans le chaos juste en détruisant ça.
Voilà, ça serait quand même un peu embêtant. Ensuite, on a les télécommunications. Alors, je n'ai pas d'exemple vital comme ça, etc. Mais je voulais juste faire référence à un plan du cinéma hollywoodien à une époque. Alors, je ne sais pas s'il... Je ne pense pas qu'il l'ait mis en œuvre, mais c'était un de leurs projets il y a pas mal d'années maintenant. Eux, ce qu'ils voulaient faire pour le cinéma, c'était ils tournent leurs films, ils les doublent et ils projettent leurs films par satellite au même moment dans le monde entier et chaque pays dans chaque langue, tout ça par satellite. Vous voyez, ça donne une idée du rêve de puissance quand même qui est derrière pour l'Amérique.
Justement, dans ce document-là, il parle même du soft power, de la diplomatie spatiale. C'est comment faire en sorte que l'on le transforme d'une manière douce en moyen de domination mondiale.
Oui, voilà. Et ensuite, après, si je reparle dans le cadre d'une attaque... Une attaque spatiale profiterait forcément beaucoup plus à un pays pauvre ou peu avancé ou faible, parce que s'il arrive à détruire suffisamment de satellites, américains ou russes ou indiens ou chinois, lui en comparaison il n'a rien à perdre, donc ce sera toujours profitable pour lui. Donc aujourd'hui, pour moi, si on suppose qu'on va rester dans un monde où les gens sont raisonnables entre grandes puissances, le problème, c'est des petits pays sur lesquels on ferait trop pression et qui essaieraient de desserrer les taux par des attaques spatiales.
Alors, une dernière question, Jean-François Genest. En étudiant attentivement donc, ce cadre-là stratégique qui a été publié en 2022, on arrive à la conclusion qu'il existe un lien entre le battage médiatique sur l'utilisation prétendument planifiée d'armes nucléaires pour éliminer des satellites et la stratégie qui était édifiée dans ce document. Et de deux choses l'une, moi en tant que journaliste, soit les employés du département d'État eux-mêmes se sont démangés les mains et ont inventé une raison pour dégainer, soi-disant, le sabre de laser, soit l'essentiel était la mention du mot « espace » afin d'utiliser immédiatement toute la puissance de la méthodologie inhérente justement à cette stratégie de diplomatie spatiale. Alors, ma question, qu'en pensez-vous ? Et n'est-ce pas une sorte de prophétie autoréalisatrice, notamment avec ces accusations à l'égard de la Russie ?
Oui, alors, pour moi, je pense que pour la plupart des gens, les États-Unis, c'est un pays qui est basé sur l'argent. Donc, chaque protagoniste doit trouver des sources de financement. Et donc, il peut se révéler pratique d'imaginer des menaces fictives pour remplir les caisses qui en intéressent certains, si vous voulez. Donc, il ne faut pas oublier, c'est 850 milliards de dollars annuels de budget militaire actuellement. Avec une branche spatiale, donc la Space Force, comme je le disais tout à l'heure, qui est militaire et qui consomme et qui veut consommer davantage et qui veut prendre le... Il ne faut pas négliger non plus la compétition entre la Space Force, l'armée de l'air, l'armée de terre, etc. Donc tous ces gens-là, il y a un budget, donc c'est celui qui en prendra le plus. Donc si on invente des menaces, on va avoir plus de budget, etc., avec des gens qui en plus sont peut-être pas capables en face du côté politique d'apprécier si c'est vrai, si c'est pas vrai, si vous voyez, enfin bon, ce genre de choses. Donc, faut pas sous-estimer la puissance non plus du lobby militaro-industriel, qui, lui, pour des questions de symétrie et de volonté hégémonique, souhaiterait peut-être lui-même mettre des armements nucléaires en orbite en réponse, hein, qui seraient prépositionnés. Parce que ça, c'est pareil, là, il va y avoir des budgets énormes. Éventuellement, en cas de potentielle et lourde défaite, suicider l'espace, entre guillemets, hein, faudrait l'écrire entre guillemets, ça, suicider l'espace, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. S'il y a suffisamment d'explosions nucléaires, après, là, ça devient un lieu où on peut plus faire grand-chose pendant un certain temps. Hein. Alors, le temps dépend de combien on en fait exploser, quel type d'engin, enfin, etc. Mais il faut le replacer, je pense, dans un contexte géopolitique actuel où l'OTAN, actuellement, est en position d'extrême faiblesse technologique. Donc, la nucléarisation de l'espace pourrait être, j'en sais rien, mais ça reste possible en tout cas, la réponse de l'OTAN aux missiles hypersoniques qui semblent être aussi, au moins partiellement, maîtrisés par les Chinois et les Iraniens.
D'accord.
Moi, je ne sais pas dans quelle mesure il n'y a pas une réflexion comme ça de l'autre côté, parce que manifestement, les missiles hypersoniques, ils ont essayé, ils n'y sont pas vraiment arrivés. Alors, je ne dis pas qu'ils ne continuent pas à essayer, mais enfin, ils ont abandonné un certain nombre de projets, pas mal, hein. Manifestement, ça coince, quoi. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Voilà. Et pour la prophétie autoréalisatrice, puisque c'était votre question aussi, la question qui, alors je vais le poser, je vais le dire sous cette forme-là, mais la question qui se pose quand même, c'est l'existence du docteur Follamour. Malheureusement, en Occident, on a quelques candidats là qui ont pointé leurs oreilles. Je citerai pas de nom, mais
tout le monde comprendra. Bien. Voilà. Bien. Alors, je crois que ce que vous venez d'aborder, Jean-François Genest, est extrêmement important et nous allons l'approfondir dans la seconde partie de l'émission. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Jean-François Genest, pour la seconde partie de notre émission. Après une courte pause musicale, à tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Jean-François Genest, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS Airbus. Actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. C'est un peu l'équivalent de, comment on appelle ça aux États-Unis, la Silicon Valley, de la Silicon Valley américaine. Voilà. Bien, alors Jean-François Genest, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience. Et alors la première question, je crois que vous avez déjà abordé cette question-là un peu à la fin de la première partie de l'émission. J'aimerais bien rappeler quelques statistiques. Donc, les États-Unis ont certainement la plus grande constellation de satellites, qu'ils soient privés ou publics, dans l'espace. Seulement, les proportions sont quand même parlantes. Et l'État, pour cause, l'État n'en possède pas plus de 10%. L'armée, environ 5%. Et le reste appartient à des sociétés commerciales privées. Alors, le département d'État déclare diplomatiquement que le secteur spatial commercial est un partenaire important du leadership et de la diplomatie des États-Unis en matière de gouvernance, de sécurité et de durabilité spatiale. Mais il faut bien voir que, et pour cause que, sur près de 5200 satellites américains, plus de 4700 appartiennent à des entreprises privées. Alors, l'essence du partenariat, Jean-François Genest, est révélée dans le rapport de ce partenariat public-privé et dans le rapport du Centre pour une nouvelle sécurité américaine, CNAS, qui propose d'émettre des lettres de marque aux propriétaires d'engins spatiaux en cas de conflit militaire. Donc, je cite, « Le Congrès utilisait autrefois, c'est-à-dire quand la guerre était maritime, c'était dans le 19e siècle, des lettres de marque autorisées par la Constitution pour accorder aux navires de mer privés le droit d'agir comme propriété de guerre de l'État. » et le gouvernement pourraient utiliser des outils juridiques similaires pour inciter les entreprises spatiales privées à participer aux missions gouvernementales sous-entendues de guerre. Et puis, l'essentiel est que tout soit conforme à la loi, évidemment américaine. La Constitution dit que c'est possible. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure avec le complexe militaro-industriel et la part des privés dans toute cette politique et cette dynamique d'économie spatiale, l'exemple de la participation des satellites Starlink en Ukraine entre-t-elle justement dans ce cadre ? Et puis la question fondamentale, à l'image de la compétition pour le contrôle des ressources sur Terre dont les grandes sociétés transnationales sont le fer de lance, une telle politique ne risque-t-il pas de reproduire la même tragédie dans l'espace ?
Alors, je voudrais dire une chose par rapport à l'introduction que vous avez faite sur les pourcentages, 10% à l'État, 5% à l'armée, etc. En fait, il faut que les gens sachent une chose très particulière et importante. Tous les tirs spatiaux dans le monde, tous les systèmes spatiaux dans le monde, privés ou publics, se font avec l'immatriculation des objets dans un pays, que ce soit, encore une fois, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, enfin, peu importe. Donc tous les engins sont immatriculés et le pays d'immatriculation fournit une garantie illimitée et pour un temps infini. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en réalité le détenteur final de ces objets-là, c'est les États. C'est absolument pas le privé. Je prends un exemple volontairement, peut-être un peu extrême, mais Elon Musk et sa société SpaceX, alors imaginons que ça vaudrait 200 milliards d'euros en capitalisation, même 1000 milliards, on s'en fiche.
Oui.
Qui est l'investisseur privé qui irait dans une société comme ça, qui veut mettre 42 000 satellites en orbite, dont on ne sait pas les accidents qu'ils pourront poser dans le temps, et dans le temps infini,
d'accord,
et qu'à un moment donné, il faudra payer les dommages. Personne. Donc ça veut dire que la constellation Starlink, elle appartient à l'État américain en dernier ressort et sûrement pas à Elon Musk. Alors, le système américain, comme d'habitude, permet à des intérêts privés de se nourrir des intérêts, de la puissance publique, un peu comme chez nous aussi d'ailleurs, mais enfin, il ne faut pas se leurrer.
C'est un peu l'histoire du nucléaire en France.
Alors le nucléaire en France, non, il est 100% étatisé, donc il y a le commissariat à l'énergie atomique, etc. On n'a pas vraiment de société privée dans le domaine nucléaire. Mais là, pour le spatial, si vous voulez, une fois qu'on a lancé des engins, et comme ils vont rester quand même très très longtemps en orbite, il va y avoir des débris, des machins, etc. Donc la garantie, imaginons, enfin, on prend un satellite Starlink, il meurt au bout de 5 ans, 25 ans plus tard, il va y avoir un débris de ce satellite qui va aller tuer des astronautes, je ne sais quoi. C'est l'État américain qui paiera. C'est pas SpaceX.
D'accord.
Donc il faut quand même savoir ça. Donc ça, c'est. Alors les gens le savent pas trop d'habitude, mais donc en fait, en dernier recours. Alors je peux prendre un autre exemple puisqu'on parlait de l'incitation des États et des États-Unis en particulier à utiliser des moyens civils, soi-disant civils, pour leurs fins militaires. Aujourd'hui, dans les satellites de télécommunication, si les satellites de télécommunication veulent transférer du trafic gouvernemental américain, il faut que le chiffre de la télécommande soit américain. Et c'est un certain temps que j'ai quitté le secteur spatial, mais quand j'y travaillais, 100% des satellites européens avaient un chiffre de télécommande, télémesure de télécommande du satellite qui était américain.
D'accord.
Et donc, il n'y avait aucun satellite. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'aucun satellite européen n'était vraiment européen.
D'accord.
Je donne ces exemples-là parce que
ce qui pourrait justement inquiéter les gens qui ne connaissent pas très bien ou qui voient ce domaine-là un peu de loin. Est-ce que cette imbrication, parce que c'est ça le problème, maintenant c'est si l'État, qui est en dernier ressort le propriétaire, donc disons le peuple, in fine, même si ce n'est pas parfait, via la démocratie, les élections, l'élection de représentants, peut quand même demander un droit de regard sur la politique spatiale d'un tel pays ou d'un autre, et voir l'influencer, si c'est possible. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais est-ce que cette imbrication des intérêts entre le public et le privé ne pourrait pas justement ouvrir la porte à une domination des intérêts privés? Et comme vous le disiez dans la première partie, cela pourrait donner possibilité à des dérapages énormes.
Ah mais c'est très clair. Aujourd'hui, on voit bien dans tous les pays occidentaux au minimum, ce n'est plus le politique qui gouverne, ce sont les intérêts économiques et qui dictent aux politiques ce qu'ils doivent faire. Donc, oui, on est en plein là-dedans. Hein, là, c'est clair. Maintenant, encore une fois, le privé se cache quand même derrière la puissance publique pour le protéger. Mais comme c'est le privé qui gouverne le public en réalité, donc il récupère la protection, il ramasse les dollars, entre guillemets. Et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, y a pas de... C'est toujours pareil. Hein. Quand on regarde dans l'histoire du monde... bien souvent, les fortunes qui se sont faites par des privés au détriment des intérêts publics et en se servant de la puissance publique pour leurs effets. Hein.
Ouais.
Ça s'est souvent passé comme ça. Hein. Très
et
souvent.
Justement, dans ce cas-là, est-ce que cette question-là de la militarisation de l'espace n'est pas vraiment à prendre très au sérieux et justement l'expliquer comme ce que nous sommes en train de faire modestement dans cette émission aux gens, que c'est un sujet qu'ils ne doivent pas considérer comme loin de leur vie quotidienne.
Ah non, absolument, je suis d'accord avec vous. C'est un sujet extrêmement grave, important, de mon point de vue nécessaire, parce que il faut pas non plus jouer les tendines. Hein. Si nous on le militarise pas, il y en a d'autres qui le feront pour nous. Et donc, on doit y défendre nos intérêts, comme ailleurs. Voilà. Après, il faut pas être jusqu'au boutiste. Il faut négocier. Moi, je suis favorable aux négociations. Hein, donc, si vous voulez, voilà. Mais après, quand on peut plus négocier, ben il reste la guerre. Hélas, c'est comme ça, quoi. Hein. Voilà. D'accord. Mais c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, par exemple. En France, le commandement de l'espace, c'est pas une arme indépendante, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois pas. Ça fait partie de l'armée de l'air et de l'espace, autant que je sache. Alors, aux États-Unis, je pense que c'est différent. Et les avions de combat ou autres sont, vous le disiez tout à l'heure, hein, sont guidés par GPS, etc. Donc, ils dépendent du spatial. Et bien entendu, il faut que les engins spatiaux marchent pour que d'autres engins, à leur tour, puissent être performants.
D'accord. Alors, pour une dernière question sur ces questions-là de...
Si vous me permettez, il y a un autre point que vous avez abordé, ce qui était sur les... sur les sociétés transnationales, là, et est-ce qu'on risque pas de reproduire la même tragédie dans l'espace? Actuellement, il faut savoir que les constellations de type Starlink, puisqu'on parlait de Starlink, elles ont un problème. Hein, elles ont un problème parce qu'elles sont écologiquement non viables. Alors que je suis pas un grand écolo à titre personnel, mais là, il faut qu'on me reconnaisse qu'avec 42 000 satellites en orbite, ça c'est le prévisionnel, avec une durée de vie moyenne de 5 ans pour les satellites, donc ça veut dire qu'on Starlink devrait lancer 42 000 satellites tous les 5 ans en régime établi, et avec des satellites qui reviennent pas sur Terre pour brûler, ou tout au moins très lentement, on va vite saturer les orbites.
D'accord.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Starlink a des concurrents américains, donc Jeff Bezos avec sa constellation Kuiper, si je me souviens bien. Il y a trois concurrents chinois, dont Huawei, je ne me souviens plus du nom des deux autres, c'est des noms chinois, c'est compliqué pour moi. L'Europe a son propre projet, la Russie a son propre projet, et je vois pas pourquoi l'Inde n'aurait pas le sien au minimum. Donc là-haut, ça va être compliqué. Il va y avoir des interactions difficiles, et attendons de voir. Voilà, C'est ça que je voulais dire.
D'accord. Bien, alors une dernière question par rapport à ces enjeux-là politiques et géopolitiques, avant de passer à un peu plus d'optimisme pour le futur. J'ai laissé les dernières questions pour ça. Alors, pour les États-Unis, les efforts dans le cadre de la diplomatie pour l'espace favorisent un ordre international fondé sur des règles dans les activités spatiales. Or, dans le document justement, il n'y a pas de définition de la diplomatie spatiale. Il laisse ça comme un peu vague. Et de quelles règles il s'agit ? Bien. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y a des experts du Centre central de recherche scientifique qui écrivent à ce sujet, dans une lettre justement, je crois que c'était à Donald Trump, et ils expliquent que l'attitude du traité sur l'espace extra-atmosphérique à l'égard des armes militaires dans l'espace devrait être reconsidérée. L'accord interdit les armes nucléaires de destruction massive dans l'espace, mais autorise par inadvertance l'utilisation de systèmes d'armes conventionnels. Le traité représente donc une vision irréaliste de l'espace en tant que bien commun, mondial, pacifique à l'usage de tous. Et donc, ils ajoutent plus précisément, la politique spatiale moderne doit prendre en compte à la fois le besoin des États-Unis d'accéder à l'espace et la question délicate de savoir si d'autres pays, je répète, si d'autres pays doivent se voir refuser l'accès à cette zone. C'est-à-dire l'accès à l'espace, je crois que vous l'avez déjà évoqué dès le début, avec donc, la stratégie américaine établie depuis les années 2002.
Oui, alors, absolument.
La question... À votre avis, les États-Unis ont-ils les moyens d'imposer de telles règles au reste du monde dans le domaine spatial, vu justement l'émergence de beaucoup de puissances actuellement ? Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique ?
Oui, alors, si vous voulez...
Aussi bien économique, financier que technologique.
Oui, alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est que d'abord, les États-Unis imposeront les règles à leurs vassaux, européens en tête, ça c'est évident. Bah, je veux dire, c'est plié, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est plié pour longtemps. Ensuite, dans le cadre de la scission mondiale avec les BRICS, on va dire qu'en gros, il y aurait un Occident, les pays du Sud, je sais pas comment on peut appeler ça. Là, ils n'y arriveront pas dans cet espace géopolitique. Mais ça n'empêcherait pas qu'il pourrait y avoir des négociations internationales entre blocs et pour avoir un consensus minimal. Mais ça semble mal parti pour l'instant. Mais je pense qu'un jour, on sera obligé d'y revenir. Parce qu'il y aura sûrement des petits malins dans le système qui, un jour, vont profiter d'une brèche en disant ben « Moi, je suis ni du côté occidental, ni du côté des BRICS, je suis au milieu. » Et des gens qui vont vouloir émerger, très sûrement. Alors, à moyen long terme, hein, pas immédiatement, mais je pense qu'un jour ils sont obligés. Il y a d'ailleurs eu rappelons-nous le traité de 1967 sur l'espace. 1967, c'était quand même un peu la guerre froide, donc il avait quand même réussi à y avoir un traité entre guillemets ennemis.
Oui, oui.
Donc je pense qu'à terme il faudra quand même un minimum de règles, mais espérons que ces règles seront libérales, parce que j'y tiens à titre personnel.
Au moins négociées. Le problème, c'est qu'elles ne sont... On ne sait pas de quelles règles il s'agit, et
oui,
c'est comme ils ont fait pour la politique internationale, avec des règles qui n'ont jamais été négociées aux Nations Unies. Ça devient un instrument de domination.
Ah, mais on est d'accord, ça ils voudront, mais là je pense que c'est le règne de la domination est terminé pour eux. Il y aura au moins deux blocs. Après, si les deux blocs se mettent d'accord pour mettre en quelque sorte une sorte de dictature spatiale, ça serait pas très bon non plus. Hein. Mais bon, voilà. Par ailleurs, encore une fois, la militarisation de l'espace, hein, elle est en cours, hein, d'accord, et donc elle est inéluctable. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le spatial est né du militaire, donc ça a toujours été une activité militaire en réalité. Enfin, dans la mesure où il y a des intérêts spatiaux, hein, il y a bien évident qu'il y aura un minimum des frictions, sinon plus. Et pour ce qui est du refus de l'accès par les US, c'est écrit dans leur doctrine spatiale, c'est un état guerrier. Maintenant, ça dépend à qui ils ont affaire. Regardez, enfin, ils n'ont pas réussi à interdire l'accès malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, ni à l'Iran, ni à la Corée du Nord.
Ouais.
Donc on peut espérer qu'avec la... Il faut voir aussi ça dans le contexte de la diffusion des technologies. ce qui était très compliqué il y a 20, 30, 40, 50 ans, voire plus, aujourd'hui devient abordable à beaucoup de pays. Mmh. Et donc, petit à petit, je pense que il va falloir se faire à l'idée que tout le monde vient dans le domaine spatial. Alors, si c'est des gens qui viennent avec des intentions belliqueuses, effectivement, vaut mieux l'arrêter. Mais pour des intentions civiles, pacifiques, après, il y aura le problème de la compétition économique. Et là, ils vont pas aimer, c'est sûr. Hein.
D'accord. Maintenant, j'aimerais bien terminer quand même, sur une note d'optimisme, mais sans qu'on soit accusé de rêveur. J'aimerais bien parler de faits et puis de possibilités d'extrapoler ces faits vers des choses encore meilleures. Et pourquoi pas, les êtres humains sont capables du pire, mais sont aussi capables du meilleur. Bien, alors... Oui. Il y a un exemple quand même frappant de la coopération spatiale entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et les États-Unis, qui est le programme Soyouz Apollo. Et il faut rappeler que ce programme Soyouz Apollo a été conçu à une époque pour avoir la garantie de se sauver mutuellement dans l'espace et pas du tout pour une sorte de détente politique ou géopolitique entre les deux clans. Alors, et je crois que même actuellement, cette coopération peut trouver encore des espaces où elle peut s'agrandir et je crois qu'elle continue encore. Et donc ma question, n'est-il pas possible d'utiliser l'espace pour le développement de partenariats comme universitaires, de recherche, d'interactions scientifiques et créer un terrain favorisant la paix et la coopération entre toutes les nations ? Quand même, l'espace est infini. Hein, il y a au moins 100 milliards de galaxies, pas de planètes, de galaxies. Et avec un minimum d'intelligence, on peut se dire que 7 milliards peut-être d'êtres humains, ce n'est pas assez suffisant pour aller dans l'espace et essayer de faire des choses.
Oui, alors là...
Mais sans être trop rêveur, mais avec des faits réels, si vous en avez.
Alors moi, je suis pas très rêveur là sur le sujet. Je crois à l'exploitation de l'espace, au développement industriel de l'espace, hein, puisque enfin, vous avez dit que je suis le PDG de ma propre société qui s'appelle Warcon. Ça, c'est mon business plan. Industrialiser l'espace de diverses façons avec des technologies disruptives. Mais en revanche, je crois peu à la coopération. La coopération s'est faite ces dernières années ou décennies sur des projets étatiques. Donc il y a eu l'ISS qui en est un exemple emblématique. Honnêtement, entre nous, il n'est rien sorti de l'ISS. Et après, si on prend le virage, compris les États-Unis, en se dotant d'une loi sur l'exploitation des astéroïdes, par exemple, avec, en gros, si je résume la loi, c'est premier arrivé, premier servi. Le Luxembourg est le seul pays européen qui a suivi. Ça, c'est de la compétition, c'est un système à l'américaine. À titre personnel, j'y suis assez favorable. Donc, c'est la compétition. Alors, bien entendu, il faut que la compétition soit, non faussée, etc., etc.
Une dernière question, est-ce que vous avez des idées dans le cadre de vos activités, justement dans ce sens, des innovations ?
Alors, merci de me poser la question.
Ah, on va profiter quand même.
Ma société, enfin, j'ai déposé un brevet en décembre 2021. Il a été accepté, publié, etc. Et on vise à développer un moteur de propulsion spatiale qu'on appelle à impulsion spécifique infinie et qui mettrait, j'espère, la ceinture d'astéroïdes à 15 jours de trajet et la planète Titan à 4 mois. D'accord. Et donc, effectivement, dans le business plan qui suit ce moteur, eh bien le but, c'est bien de développer suite à ça, parce que ça, c'est ce qui va permettre le déclenchement. Et ensuite, ce sera de chercher des investissements importants pour commencer à exploiter l'espace et de manière faisable. Parce qu'aujourd'hui, dans le système actuel, ce n'est pas faisable. D'accord. Il faut presque un an pour aller sur Mars. Donc la ceinture d'astéroïdes, c'est encore nettement plus loin. Et après, il faut revenir avec des masses importantes. Donc ça ne peut pas marcher comme ça.
D'accord.
Et donc ce moteur-là est vraiment disruptif.
Alors, ça a été vraiment un plaisir encore une fois, Jean-François Genest, pour tout...
Plaisir partagé, merci.
pour tous ces éclairages. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Cher ami Jean-François Jeunesse, je vous remercie pour tous ces éclairages. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question un peu, avec ses multiples facettes et ses conséquences. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. C'était Jean-François Jeunesse, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS Airbus, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.